Parlons un petit peu maintenant de commotion cérébrale. Il est professeur à l'Université de Montréal, il est neuropsychologue et il lance demain un nouveau livre sur les commotions cérébrales. C'est le spécialiste, le docteur David Ellenberg, qui nous parle en primeur d'ailleurs de ce livre où il veut lever le voile sur, grâce à d'ailleurs des personnalités sportives, artistiques et journalistiques qui témoignent de la commotion cérébrale qu'ils ont subie. Le docteur Ellenberg est avec moi. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez interviewé plusieurs personnalités connues du grand public. Et le but, Dr. Ellenberg, c'est vraiment d'essayer de donner de l'espoir à tous ces Québécois qui ont déjà fait l'expérience d'une commotion cérébrale, parfois pas tout à fait sûr de ce qui leur était arrivé, parce que c'est pas toujours clair. Hein? Le diagnostic est pas toujours évident. Puis même parfois, quand on passe le test, vous avez parlé, entre autres, au plongeur Alexandre Despatie. Évidemment, la boxeuse Marie-Ève Dicker témoigne. Le hockeyeur Joé Junot, Marianne Saint-Gelais, entre autres. Il y a même Sébastien Toutan, c'est le premier témoignage qui est assez troublant. Grand champion de surf des neiges. Vous vouliez surtout qu'on en parle parce que vous dites que c'est un mal invisible, vraiment méconnu.
Tout à fait. Puis on a également rencontré des gens qui ne sont pas des sportifs, mais qui font partie du milieu artistique. Puis je dois souligner le « on » parce que c'est un travail d'équipe. C'est un beau travail d'équipe qui a été mené de front par la journaliste Diane Sauvé de Radio-Canada Sport et puis par deux autres collègues, Véronique Sicard et William Archambault. Diane Sauvé a fait un travail merveilleux là, d'entrevue qu'elle a menée de front avec chacune des personnalités et c'était notre objectif. Comme Diane le dit bien, c'est une blessure qui ne vient pas avec un manuel d'instruction. Hein. Chaque commotion est différente, chaque personne a son histoire et c'était ça le but du livre. C'était de trouver un moyen de démystifier, de faire connaître la commotion cérébrale en regardant, en comprenant les nuances, les différences. Donc, d'informer, puis informer, mais c'est aussi rassurer.
Ouais.
Savez-moi, en pratique clinique, comme neuropsychologue et aussi dans les cliniques, vous savez, on voit principalement des gens qui ont ces commotions cérébrales-là qui ne sont pas nécessairement des athlètes,
des
sportifs, alors que souvent, on pense tout de suite au sport de haut niveau, aux athlètes, comme ceux qui sont le plus à risque là, de subir des commotions cérébrales.
Ben justement, il y a le témoignage de l'animatrice comédienne Élise Marquis, qui, elle, finalement, a comme manqué 2-3 marches, s'est cognée la tête et a subi une commotion.
Oui, puis c'est important de le souligner. Souvent, ce sont des blessures qui peuvent sembler tout à fait banales.
Oui, anodines, effectivement.
Comme celle de Heidi Hollinger qui, bon, reçoit un coup de raquette de tennis lors d'un service.
Ouais.
Et puis, on remarque que ces blessures-là ont des conséquences sur les gens, des conséquences importantes. Élise Marquis, qui était en plein milieu là, d'un feu roulant de différentes activités professionnelles qu'elle devait faire, elle garde ses symptômes pour elle, elle fait comme si rien n'était, mais elle travaille fort derrière cela, hein. Double la préparation, double le temps de travail pour que ça paraisse pas. À la télé, elle en parle pas. Et ce qui rend la blessure encore plus difficile, en fait, et ce qu'on comprend, c'est le jugement, le regard des autres. Et ça, on le voit donc tant dans le témoignage d'Élise Marquis, celui de Heidi Hollinger, mais aussi ceux des sportifs qui sont pris à prendre des décisions déchirantes, je pense, puis vous l'avez mentionné là, à Sébastien Toutant, qui lui est dans les qualificatifs pour les Olympiques, et puis là, il a une commotion cérébrale. Il sent pas bien. Mais il se fait dire par son équipe de soigneurs, tu sais, c'est correct, tu as passé les tests, tu pourrais continuer. Mais vraiment, il a eu l'éveil, il a eu l'écoute de soi de se dire, hey, je me sens pas bien, je vais pas prendre le risque. Mais on s'entend-tu que c'est probablement des plus difficiles décisions, une décision les plus difficiles à prendre là pour un athlète de son calibre qui dit, ben, je vais peut-être passer à côté des Olympiques.
Puis ce qui est fascinant et puis très troublant dans son histoire, c'est que finalement aussi, il a été testé pour détecter sa commotion cérébrale. Puis finalement, à deux reprises après sa chute, il a comme passé le test finalement. Donc, c'était pas clair dans son cas, mais lui le sentait. Donc, il y a comme un enjeu aussi au niveau des tests.
Absolument. Mais vous savez, c'est ça, dans le livre, qui est intéressant, c'est qu'on fait le pont entre les témoignages des personnalités, mais aussi ce que la science nous apprend.
Voilà. Qu'est-ce qu'on en sait? Oui, c'est ça.
Dans le cas particulier de Sébastien Toutant, c'est qu'on va démystifier un petit peu tout ce qui se passe autour des tests. Il faut savoir que les tests qui sont utilisés chez les sportifs, en général, n'ont pas une très, très grande sensibilité. Donc, on peut détecter s'il y a des symptômes importants, des déficits importants, mais par contre, des symptômes un peu plus subtils, ces tests-là ne les détectent pas. En fait, même une étude récente de mon laboratoire là, qui a été publiée par l'Association américaine de médecine sportive, indique que environ 30% des athlètes retournent au jeu, se sentent bien, mais lorsqu'on arrive avec des tests plus sensibles, qui sont faits lors d'un effort physique, mais les athlètes vont les échouer.
Ouais,
donc,
ouais,
donc, nous, on a pris les tests. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les tests qui sont disponibles, qui sont utilisés chez les athlètes, mais on les a rendus un petit peu plus sensibles. On les a tweakés un peu. On les a modifiés pour qu'ils aient des propriétés psychométriques en neuropsychologie qui nous permettent d'aller détecter un peu mieux les séquelles de la commotion. Ouais. Et on voit là que l'histoire est un peu différente.
J'aimerais en profiter pour donner nos numéros de téléphone aux gens là, qui nous écoutent. 514-790-9850. Également le 1-866-790-9850. Si vous avez expérimenté, subi une commotion cérébrale, j'aimerais ça entendre dans quel contexte vous l'avez eu. Qu'est-ce que vous avez fait aussi? Il y a des gens, Dr. Ellenberg, qui en subissent plus qu'une. Hein. C'est ça le problème, ce qui rajoute à la difficulté. Je rappelle que vous êtes directeur aussi de l'Institut des commotions cérébrales, conférencier émérite. Hein. Y a beaucoup de troubles qui apparaissent après une commotion. Mais si on prenait depuis le début, là, si les gens ne sont pas sûrs, qu'est-ce qui pourrait les aider à dire « Ah, mais ça, c'est une commotion que j'ai subie. Mm-hmm. » Quels sont les symptômes les plus fréquents d'une commotion cérébrale, du signe qu'on a fait une commotion cérébrale?
Mais la première chose, c'est l'événement, hein, l'impact, parce que plusieurs personnes, environ 20% des gens qui vont subir un impact, là, qui ultimement auront une commotion cérébrale, peuvent ne pas présenter de symptômes dans les premières 24 et 48 heures. Puis, ça a été le cas de Heidi Hollinger, hein, qui nous dit, bon, j'ai eu un coup à la tête, bon, j'ai mal un peu au cuir chevelu, mais tu sais, comme ma chum de tennis me disait, tu sais, prends deux Robax Socet, puis tu vas être parfaite, et puis c'est ce qu'elle a fait, puis... Quelques jours plus tard, paf, ça lui tombe dessus. Les symptômes apparaissent. Souvent, les premiers symptômes, c'est les maux de tête.
Ouais.
Importants maux de tête qui peuvent apparaître soit au moment de l'impact ou dans les heures, les jours qui vont suivre. Aussi, les étourdissements. Après cela, on a sensibilité à la lumière, sensibilité au son. Ça a été le cas de Marianne Saint-Gelais,
oui.
Qui, pour elle, là, ça a été un des faits accablants là, de sa situation, des grandes sensibilités au son, à la lumière que perdurait même Heidi Hollinger qui se retrouve dans une salle de bal pour des anciens étudiants de l'Université McGill. Et puis là, le moindre son, les gens qui parlent dans la salle l'accablaient complètement. Elle est obligée de se retirer, de quitter l'événement là beaucoup plus tôt. Et donc, ce sont les symptômes principaux. Mais après ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très grande évolution. Dans les jours, dans les semaines, des symptômes qui peuvent apparaître, disparaître de nouveau, qui peuvent se manifester, augmenter aussi, donc les nausées. Il y a également, sur le plan cognitif, la confusion, être mélangé, avoir du mal à se concentrer, les troubles de mémoire aussi, d'avoir du mal à trouver ses mots. C'est ce qu'Isabelle Richer nous parle aussi. Isabelle Richer avait une peur hein, de plus retrouver sa répartie. Et pour une journaliste, c'est important là hein, de trouver le mot juste, la grande répartie. Et c'est quelque chose aussi qu'elle a vécu. Donc, je dis aux gens, soyez sensibles à l'événement. Si vous avez eu un choc important au corps, votre tête a été brassée, un coup à la tête, prenez une pause, observez si des symptômes apparaissent. Et après cela, consulter rapidement. Ce qu'on ne fait pas toujours.
Oui, effectivement. Il faut que ça soit un coup direct à la tête? Il faut que ça soit... C'est quel genre de coup?
C'est important de préciser, en effet. On sait que la blessure se passe à l'intérieur de la boîte crânienne.
Ouais.
Hein? C'est quand un mouvement rapide de la tête, puis lui, le cerveau, là, ben, il va aller percuter les parois frontales, donc les parois avant de la tête, les parois arrière. Et donc, on sait que dans cet impact-là, ben, il peut y avoir un écrasement du tissu cérébral suivi d'un étirement, une torsion. Donc, tout ce qui peut causer ce mouvement de la tête-là comme un mouvement du pendule, mm-hmm. peut causer une commotion cérébrale, donc un gros claquage au corps. Tu sais, le gymnaste qui fait une chute, qui tombe sur les fesses, mais que la tête est projetée un peu en mouvement de balancier, ça peut causer une commotion cérébrale. Là. Mm. Et c'est important de démystifier ce point-là.
Le fameux mouvement, je cherche le mot en français, whiplash, là, c'est
coup de poids cérébral. Ouais. Coup du lapin, oui.
Oui, coup du lapin, c'est ça. En voiture, par exemple, qui est quand même plutôt fréquent quand on est obligé de freiner sec, est-ce que ça peut être suffisant pour causer une commotion cérébrale, Dr. Ellenberg?
Tout à fait. Ça peut causer ou ne pas de commotion cérébrale, mais c'est important quand on parle justement du coup du lapin de comprendre également qu'il y a trois blessures qui apparaissent parfois ensemble et qu'on peut les mélanger. Oui, il y a la commotion cérébrale proprement dit qui est la blessure au cerveau, mais elle peut être accompagnée par une blessure au cou, donc que ce soit aux vertèbres cervicales ou à toute la structure de muscles et de tendons qui viennent soutenir cela, mm-hmm. ou au système vestibulaire, donc l'oreille interne le système qui peut être blessé, endommagé par ce lapin-là. Et souvent, les symptômes aussi peuvent se mélanger. C'est pour ça que c'est important de consulter des équipes multidisciplinaires. Donc, le médecin en premier qui nous aidera peut-être à départager, puis mm-hmm. les symptômes vestibulaires, de dire, ben là, tu dois avoir un physiothérapeute qui peut faire une intervention au niveau vestibulaire, un thérapeute du sport, un kinésiologue, un neuropsychologue. Et quand je parle de l'équipe, ça me fait penser tout de suite à Marie-Ève Dicker, notre boxeuse, qui, elle, le disait, là, c'est sans mon équipe, là, tout le monde qui ont travaillé ensemble pour trouver l'origine des difficultés, mettre en place un programme pour moi, je ne serais probablement pas arrivée.
Et si vous saviez, Dr. Ellenberg, c'est pas la première fois qu'on se parle, et comme chaque fois, nos lignes sont pleines et j'ai plein de courriels et de témoignages de gens. C'est incroyable. On dit d'ailleurs, puis vous le dites très bien, 80% des commotions cérébrales ne sont pas diagnostiquées. C'est pour ça qu'il faut vraiment là, que les gens soient au courant eux-mêmes et surtout parce qu'on veut éviter de les accumuler. On va s'arrêter ici pour le moment. Je veux juste parler vite, puis on va revenir là, sur le nombre de commotions qu'on accumule puis qui ont des impacts importants. Là. Une, ça peut toujours aller, mais deux, trois, quatre, c'est pas une bonne nouvelle. On a Mathieu qui est un habitué de la planche à neige, mais malheureusement, Mathieu, bonjour, merci de nous appeler. Vous avez été obligé d'arrêter ce sport?
Oui, j'ai fait ça pendant quand même plusieurs années. Ça a été pas mal ma vie au complet. Puis j'ai cumulé environ 8 commotions cérébrales qui a dû justement pas mal arrêter de faire des sauts là, en snowboard à cause de tout ça. Hein.
8 commotions. Mathieu, vous avez commencé votre première à quel âge, puis votre dernière? Là, sur combien d'années ces 8 commotions-là?
Ils ont été sur 3 ans, je te dirais, de 18, 19, 20 ans. C'est sur 3 années faciles que ça sont passées toutes mes commotions.
Avez-vous été suivi? Aviez-vous des préparateurs, des équipes là, de soigneurs qui vous ont aidé à détecter ces commotions, qui vous ont donné un protocole?
Non, mais c'est ça le problème dans le temps, c'est que il y avait rien qui se passait. Là. C'est à un moment donné, tu te fais mal, puis à un moment donné, il y a des fois, c'est blackout, je vois noir, je vois plus rien, tu as perdu connaissance, vomissement immédiatement après m'avoir... Oui, c'est tout des whip splash. C'est toutes mes commotions, mes 8, c'est toutes de la même façon. Ah. Fait que ça a été rien qu'à y penser encore aujourd'hui. Ça me donne des nausées parce que je sais c'est quoi le feeling. Ah. Puis maintenant, les répercussions, tu sais, il parlait de sensibilité au son. Mais moi, je l'ai toujours, ça. C'est épouvantable, là. Entendre un petit son, ça me fatigue, ça m'agresse.
Comme un acouphène, là. Vous avez comme un acouphène, hein, c'est ça?
Je ne sais pas c'est quoi.
Un acouphène, c'est un son que vous pouvez avoir dans l'oreille de façon constante ou partir, remarquez, là, mais qui fait comme un « i » ou un son.
Ça, de ce côté-là, je suis correct. C'est vraiment les sons. Il y a certains sons qui m'agressent.
Ah, c'est les sons extérieurs qui vous agressent.
Okay. Ouais.
Et j'ai envie de vous dire, écoutez, on doit aller à la pause absolument, mais c'est clair que je vais poser la question au docteur Dave Ellenberg. Un peu nous dire là, ce que ça veut dire pour vous. Restez là, Mathieu, puis on a plein d'autres monde aussi qui veulent intervenir. On va essayer de vous donner le plus possible la parole. 514-790-9850. On s'intéresse beaucoup aux commotions cérébrales. Moi, je vous avoue, là, comme ex-joueuse de handball, j'en ai eu une ou deux. J'ai eu des filles aussi qui ont fait beaucoup de sport, qui en ont eu. Et c'est tellement important comme parent, mais comme personne, là, comme d'être au courant de ça, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui peuvent en faire des commotions. Et si elles ne sont pas suivies, c'est être extrêmement risqué et éventuellement dommageable. Alors, on s'arrête ici et on poursuit notre conversation tout de suite après. Alors, il y avait l'histoire de Mathieu, qui est toujours avec nous d'ailleurs, qui est un jeune sportif qui faisait beaucoup de planche à neige et 8 commotions en 3 ans. Docteur David Allenberg est avec nous. Dave Allenberg, c'est beaucoup de commotions, beaucoup trop de commotions. D'ailleurs, Mathieu nous l'a dit, il a dû arrêter son sport.
Tout à fait.
Votre réaction par rapport à son témoignage?
C'est incroyable. C'est beaucoup trop de commotions. J'ai encore du mal à croire qu'on se rend à un aussi grand nombre, mais Mathieu est pas le seul dans son cas. Hein. Comme chercheur, comme clinicien, je rencontre régulièrement des gens, des parents avec leurs adolescents qui ont subi 3, 4, 5 commotions des joueurs de football. Il faut savoir que les commotions cérébrales ont un effet cumulatif. Mathieu nous dit aujourd'hui qu'il est accablé par les sons, ça le dérange, il y a encore des symptômes, mais probablement s'il y en avait eu 1, 2, s'il avait été pris en charge, il n'y en aurait pas de symptômes aujourd'hui. Puis Heidi Allenberg, c'est un peu ça qu'elle nous raconte. Hein? Tu sais, le coup banal que j'ai eu là, lors du service au tennis, il n'y en aurait pas eu de problème si je n'avais pas déjà eu 3, 4 commotions avant celle-là.
Ouais.
C'est cet effet cumulatif-là qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des symptômes qui persistent. Puis ça aussi, c'est un objectif du livre, de pas juste parler de ce qui se passe au moment de la commotion, mais comment je fais pour vivre quand j'ai encore des symptômes quelques mois, peut-être même quelques années après la commotion cérébrale.
Ouais. Mathieu est toujours là. D'ailleurs, Mathieu, vous avez aujourd'hui toujours des problèmes. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de concentration. Il peut y avoir des problèmes d'élocution. Il peut y avoir des absences aussi. Ça dépend évidemment de la gravité. Après 8, vous vivez ça comment, vous, aujourd'hui, Mathieu?
Ben, c'est difficile, là. J'ai même fait un choix de la vie. J'habitais à Montréal avant. Maintenant, je m'ai construit une maison dans le fin fond des bois pour justement éliminer les sources de bruit, tu sais, qui me fatiguaient. Les répercussions, il y en a tellement sur autant émotionnel. On dirait que je suis plus émotionnel que j'étais dans le passé à cause des commotions. Fait que il y a tellement de grosses variations de style de vie que j'ai dû m'adapter. Là. C'est complètement fou. Là.
Ouais.
C'est sûr que même aujourd'hui, j'avais fait des recherches, essayer de trouver de l'aide, tu sais, pour avoir juste des petits trucs pour savoir comment mieux vivre avec ça. Puis j'ai vraiment rien trouvé. J'ai même appelé au CLSC, ils ont essayé de chercher eux aussi, puis ils ont rien trouvé comme aide, tu sais. Il y a de l'aide pour des gens qui ont eu des gros traumas cérébrales, comment dire, qui ne se souviennent même plus c'est quoi leur nom.
Ouais.
Puis ceux qui viennent juste d'en avoir une, mais ceux qui en ont eu à répétition dans le passé, j'ai jamais vu d'aide. J'ai rien trouvé sur Internet, même à travers le Canada, j'ai regardé, j'ai rien trouvé.
Ouais. Docteur Allenberg, vous êtes directeur de l'Institut des commotions cérébrales. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Mathieu?
Mais premièrement, Mathieu a raison. Hein. Dans le système public, là, c'est difficile d'aller chercher de l'aide si on n'a pas eu un trauma là, qui rentre dans la catégorie modérée, grave. En effet, puis la commotion cérébrale demeure encore méconnue. Puis, j'aimerais souligner sur l'aspect émotionnel que Mathieu parlait. Oui, c'est certain que ça a un impact sur les émotions. Ça cause du stress, ça cause de l'anxiété parce qu'on doit faire des deuils dans notre vie, ça change une vie, mais aussi, même sur le plan neurobiologique, puis il y a une étude toute récente qui est arrivée là, de l'Ouest du Canada, et aussi d'autres études dans mon laboratoire, qui indiquent que les commotions à répétition aussi affectent certaines régions du cerveau qui sont importantes pour la régulation des émotions, pour la gestion du stress. Donc oui, on vit plus d'anxiété, on a plus des symptômes de dépression, mais il y a une cause neurobiologique également là-dessus. Ça, c'est dur à vivre pour les gens peut-être comme Mathieu, comme d'autres qui se font dire « Ouais, mais tu sais, tu piles pas, tu sais, donne-toi un petit coup de pied dans le cul, puis prends ta vie en main, puis fais les choses comme avant, mais non, c'est pas juste un élément de volonté, il y a aussi un élément neurochimique là-dedans. »
Donc, il touche la santé mentale.
Absolument.
Ouais.
C'est de plus en plus connu, de plus en plus documenté.
Mathieu, bon courage en tous les cas. Merci bien de votre témoignage. C'est très important là, de vous donner la parole. Harry est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
En fait, moi, j'ai eu une commotion il y a un peu plus de 2 ans maintenant, suite à, c'était pendant l'entraînement de Jiu-Jitsu brésilien. Un gros choc frontal qui m'a... Je ne suis pas tombé dans les pommes, comme on dit, mais ce qui a fait que je suis... C'est venu petit à petit, de façon très sournoise, là, un peu comme le précédent interlocuteur, là, le bruit, la lumière. Et jusqu'à maintenant, j'ai des séquelles. Je suis tombé également. Ça, moi, je suis un compétiteur. J'ai été compétiteur d'un certain niveau auparavant. Et je suis tombé dans une dépression suite à ça, en fait. Parce que ça, on le dit rarement, mais la petite sœur de la commotion, bah, c'est la dépression. Mmh. Et malheureusement, bah, jusqu'à aujourd'hui, il y a un niveau de stress qu'auparavant, j'étais capable d'encaisser sans le moindre problème. Aujourd'hui, je ne peux plus encaisser ce genre de niveau, un niveau de stress.
Ouais, ouais.
Pareil au niveau des bruits. Il y a certains sons, ce ne sont pas tous les bruits, mais il y a certains sons que mon oreille ne tolère plus, que ma tête ne tolère plus du tout. Et puis, l'agressivité a été... C'est ça qui m'a conduit vers le... Heureusement que j'ai été... Et puis, trouver... Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est trouver les bons thérapeutes,
ouais.
c'est vraiment un parcours du combattant également, parce que c'est pas tout de s'occuper de la commotion, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a tout le apprendre à se déstresser. Et puis moi, je m'en suis sorti en psychothérapie, entre autres, en psychothérapie par la méditation. J'ai jamais pris le moindre cachet, ma psychothérapeute m'a jamais fait prendre le moindre cachet, mais elle m'a fait sortir de là par la méditation.
Mmh.
Et puis, jusqu'à maintenant, je continue ça, et puis il y a des moments où je retombe un peu là-dedans et je reprends de nouveau, je repars dans la... C'est vraiment la méditation qui m'a permis de m'en sortir.
Mmh.
Et puis évidemment, l'entourage, ça aussi, on n'en parle pas assez, parce que quand on est dans une commotion, en fait, on ne s'occupe plus de soi. On ne s'occupe même plus de soi, donc on ne s'occupe plus des autres. Mmh. Et moi, j'ai ma petite famille. Eux aussi, ils souffrent de ça, mais là, ça aussi, c'est très important, être entouré. Avoir les bonnes personnes, être entouré,
ouais.
avoir recevoir de l'amour de ses proches, ça aide à se sortir, parce qu'on est vraiment, c'est un voyage dans les ténèbres. Hein. Une commotion, c'est vraiment un voyage dans des ténèbres. Et retrouver cette lumière-là, c'est pas, il faut vraiment beaucoup de force et beaucoup de temps. Être patient et accepter de faire le deuil de beaucoup de choses. Et une fois qu'on a accepté ça, on a des chances de s'en sortir.
Merci.
Mais c'est un travail de tous les jours. Merci,
voilà.
À vous.
Merci beaucoup, Harry. Évidemment, bon, docteur Dave Allenberg, c'est un travail de tous les jours là, pour les gens qui ont subi plusieurs commotions cérébrales. Surtout, on comprend qu'une commotion, c'est une chose. Remarquez que si elle est importante, elle peut être suffisante aussi pour avoir un risque hein, pour la suite. Évidemment, c'est là, ce qu'on comprend du témoignage de Mathieu puis d'Harry, c'est que la vie est changée. Donc, d'où l'importance de bien prendre en charge la commotion. À part vous, sincèrement, vous êtes notre grand spécialiste. Heureusement que vous êtes là. Mais à part vous, on sent que les gens cherchent de l'aide et en trouvent relativement peu. Là, hein. C'est comme tous les mots invisibles. Là, qu'on pense aux migraines, j'en parle souvent parce que j'en ai. Mais la commotion, j'ai l'impression que c'est pareil. On ne sait pas vers qui se tourner. Il y a très peu d'endroits où on va être écouté et pris en charge.
Ben, c'était ça le but du livre, c'était de briser l'isolement, tu sais, d'écouter des témoignages comme tu sais celui d'Harry. On peut voir à quel point que ce qu'il vit représente ce que plusieurs autres personnes vivent. Et ça, ce qui est ressorti des témoignages des personnalités dans le livre, c'est que chacun, l'élément qui les a le plus aidés, c'est ce que Harry nous disait, c'était d'avoir quelqu'un dans l'entourage pour les écouter, comme un mentor, une source de soutien. Et ça semble être l'élément clé, en fait, le déclic le plus important pour chacune des personnalités. Ça semble aussi être le déclic pour Harry. Et c'est ça aussi que les personnalités voulaient apporter dans le livre, hein, qui ont été assez généreux de communiquer leur histoire pour dire, ben nous, on veut aider les gens à s'en sortir, puis en partageant notre histoire, mais en partageant nos trucs aussi.
Ouais. Est-ce que j'ai trouvé très intéressant de votre livre, puis on va se quitter là-dessus, Dr. Allenberg, c'est l'élément scientifique aussi. C'est toujours appuyé par l'angle scientifique. Donc, ça explique vraiment qu'est-ce que c'est une petite, entre guillemets, commotion cérébrale versus une plus importante. Ça explique bien aussi le cumul. Trop de commotions, évidemment, on peut se retrouver avec des syndromes persistant, effectivement, oui. Très, très ennuyeux. Bref, merci beaucoup. On aura l'occasion sans doute de s'en reparler. Je rappelle le titre du livre, c'est « Commotion cérébrale, 10 personnalités témoignent, des scientifiques expliquent ». C'est publié chez Flammarion Québec. C'est Diane Sauvé, Véronique Sicard et William Archambault avec la collaboration du grand spécialiste neuropsychologue, le Dr Dave Ellenberg. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Dr Ellenberg.
À bientôt.
C'est en librairie à partir de demain. Allez vous procurer ça. C'est vraiment super intéressant. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je reçois Martin Allard, le naturopathe, qui va nous donner quelques petits conseils pour perdre nos kilos COVID. À tout de suite, tout le monde.